de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Jokowi a ordonné que des écoles et des hôpitaux soient immédiatement construits à Ikn. Intéressé à investir dans IKN, Emirats Arabes Unis voulait d'abord voir le plan du projet. Premier ministre Netanyahou interdit officiellement aux Juifs de visiter le mont du Temple. Ministre de la Religion déclare que les officiers du Hajj ne peuvent pas avoir d'affaires juridiques en Arabie Saoudite. Jakarta espère que les jeunes entre les pays membres de l'ASEAN augmenteront leur réseau. PBSI est fier que l'équipe nationale ait remporté 9 titres avec succès jusqu'en avril. Les produits de noix de coco et de poivre indonésiens peuvent dominer le marché mondial. Pour chargé de tard, voici les nouvelles en complet. Le vice-président de l'autorité IKN, Joni Rahayu, a déclaré que le président Joko Widodo avait ordonné l'installation immédiate d'installations et d'infrastructures d'éducation et de santé. Joni Rahayu, après une réunion présidée par le président Joko Widodo au palais Merdeka Jakarta, mercredi a déclaré que le gouvernement fournirait une assistance pour accélérer la mise en place d'écoles supérieures et de qualité à IKN. Il a dit qu'en mai 2023, il y avait une certitude concernant l'hôpital qui serait construit pour la première fois à IKN. Doni a expliqué que le gouvernement mettra également en œuvre un programme de coopération avec les investisseurs par le biais de la coopération entre le gouvernement et les entités commerciales avec des coûts de financement rationnel. Selon lui, le projet de coopération entre le gouvernement et les entités commerciales à IKN est actuellement demandé par les investisseurs nationaux et étrangers. Il a ajouté que l'autorité IKN organisera une tournée de présentation concernant le projet P3 en mai pour l'offrir aux investisseurs étrangers. Doni a en outre expliqué que le gouvernement a un règlement gouvernemental concernant l'investissement et la facilité de faire des affaires, les licences et les facilités d'investissement pour faciliter les investisseurs dans IKN. Les Émirats Arabes Unis souhaitent investir dans la capitale nationale indonésienne IKN, le Kalimantan oriental, a déclaré l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Indonésie, Abdullah Salem Al-Dahiri, lors d'un iftar avec les médias Jakarta mardi 11 avril soir. L'ambassadeur Abdullah a souligné que son parti voulait d'abord voir un plan pour le projet à l'IKN afin de produire une coopération mutuellement bénéfique. Un certain nombre de secteurs intéressants, les Émirats Arabes Unis allant de l'industrie à l'énergie verte, comme les centrales géothermiques, l'hydroélectricité et les fonderies d'aluminium respectueuses de l'environnement. Jusqu'à présent, selon Abdullah, le plan d'investissement n'en est qu'au stade de la discussion. Cependant, les Émirats Arabes Unis ont déclaré qu'ils étaient prêts à signer l'accord s'il y avait des discussions sur la prochaine étape. À la même occasion, le ministre de l'Énergie et des Infrastructures des Émirats Arabes Unis, Sahail Mohamed Al-Mazroui, a fait l'éloge de la construction de la nouvelle zone de la capitale à partir de zéro. Il a également souligné que la construction d'une ville prendrait beaucoup de temps et ne serait pas achevée en une seule séance. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a officiellement interdit aux Juifs de visiter le mont du Temple, un lieu saint qui se trouve également à l'intérieur du complexe de la mosquée Al-Aqsa à partir de mercredi 12 avril jusqu'à la fin du Ramadan. Comme l'a rapporté le Times of Israel, le bureau de Netanyahu a annoncé cette décision mardi à la suite de l'attaque policière contre la mosquée Al-Aqsa la semaine dernière. Cependant, Netanyahou a également ordonné aux agences de sécurité d'avoir suffisamment de troupes en attente pour garder le mur des Lamentations près du mont du Temple afin que les Juifs puissent toujours visiter. Cette décision a été prise peu de temps après que le Hamas a publié une déclaration appelant les Palestiniens à occuper la mosquée Al-Aqsa et à ne pas partir avant la fin du Ramadan. Ils ont également averti les Israéliens de ne pas visiter les lieux saints juifs du complexe, qui déclenchent souvent des frictions pendant le Ramadan. Le complexe est redevenu un attaqué des fidèles musulmans priant à la mosquée Al-Aqsa la semaine dernière. Le ministre indonésien de la religion, Yaqut Khalil Komas, a demandé à l'organisateur du pèlerinage du Hajj en Arabie Saoudite 1444 Hijriya 2023 de ne pas avoir de problèmes juridiques lorsqu'il sert des pèlerins en Terre Sainte. Cela a été transmis par Yaqut Khalil Komas lors de l'ouverture de l'orientation technique intégrée avec le ministère de la Santé pour les organisateurs du Hajj d'Arabie Saoudite 1444 Hijriya ou 2023, pendant que des Hajj Dormitory Jakarta mercredi 12 avril 2023. Dans son allocution, le ministre des Cultes a demandé aux officiers du Hajj de se conformer à la réglementation en vigueur en Arabie Saoudite et d'être une solution aux problèmes rencontrés par les pèlerins du Hajj. Yaqut a conseillé à tous les officiers de comprendre toutes les réglementations qui peuvent et ne peuvent pas être appliquées en Arabie Saoudite. Comme cité d'Antara, la mise en œuvre du pèlerinage du 1444 Hijriya 2023 porte le thème du Hajj adapté aux personnes âgées. Le gouvernement indonésien a envoyé 203 320 pèlerins réguliers du Hajj en Terre Sainte, avec une composition de 67 000 pèlerins âgés ou un tiers du quota régulier du Hajj et 17 600 80 pèlerins spéciaux du Hajj. Le gouvernement provincial de la région spéciale de la capitale Jakarta, Indonésie, espère que la délégation des jeunes de l'ASEAN profitera de la série d'activités du président de l'ASEAN pour améliorer la mise en réseau des jeunes des pays membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. La province de DKI Jakarta également inclut sa délégation dans une série d'activités ASEAN Youth Dialogue on Digital Development for Sustainable Development Goals 2023, qui s'est tenue pendant 3 jours du 11 au 13 avril 2023 à Jakarta. La chef du Bureau de coopération régionale du secrétariat provincial de Jakarta, Marolina Dewi à Jakarta, a déclaré mercredi 12 avril que les jeunes peuvent apporter des idées à un certain nombre de dialogues transnationaux, en commençant par les relations interreligieuses, en préservant la culture locale dans les zones urbaines. Résilience climatique, le développement économique par le tourisme et l'économie créative, ainsi que l'entrepreneuriat. Marolina a transmis un certain nombre de recommandations liées à la réunion aux dirigeants de l'ASEAN lors du 42e sommet de l'ASEAN à Labuan Bajo le 11 mai 2023. L'une d'elles consiste à établir des partenariats pour la mise en œuvre des perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique AOIP, en particulier pour l'autonomisation des jeunes, un développement par objectif développement durable dans le numérique. L'exécutif central de l'Association indonésienne de badminton, PPPBSI, s'est dit fier des résultats obtenus par l'équipe nationale jusqu'en avril, à savoir avoir pu remporter 9 titres dans un certain nombre de tournois de la Fédération mondiale de badminton. Selon le secrétaire général adjoint du PPPBSI, Eddie Sukarno, lors de sa rencontre au Centre national d'entraînement Cipayung PBSI à l'est de Jakarta mercredi, les résultats ont été jugés satisfaisants car les titres ont été remportés lors de tournois prestigieux. En détail, les 9 titres remportés par la Garuda Squad incluent l'Open de Malaisie, l'Open de Thaïlande, l'All England, l'Espagne Master et le Vietnam International Challenge, avec un titre à chacun. De plus, l'équipe nationale de badminton place toujours des représentants jusqu'au tour final de chaque tournoi auquel ils participent. Cet exploit ne peut être dissocié du développement significatif d'un certain nombre d'athlètes. Par exemple, le simple féminin Gregoria Mariska Tunjung qui a remporté avec succès son premier titre sur le circuit mondial dans un tournoi de niveau BWF Super 300. De même, les jeunes athlètes qui se préparent pour la prochaine génération sont également considérés comme ayant connu des développements positifs. Le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan, espère que les produits de base de noix de coco et de poivre deviendront le fleuron du commerce de la République d'Indonésie et domineront le marché mondial. Après avoir visité le secrétariat de la Communauté internationale de la noix de coco, ICC, et de la Communauté internationale du poivre, IPC, à Jakarta mercredi 12 avril, Zulkifli a déclaré que l'île de Sumatra a une grande production de poivre, comme le poivre blanc de Bangka Belitung et le poivre noir de Lampung. Selon lui, cela a le potentiel d'être développé à l'étranger. Le ministère du Commerce coopère également avec ICC et IPC pour échanger des informations afin d'unifier la vision et la mission en poussant les produits de noix de coco et de poivre à être plus mondiaux. Selon Zulkifli, ces deux produits sont supérieurs depuis l'Antiquité. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
C'est Zerita, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique ayant pour le titre l'ambassade d'Indonésie à Ankara et des ONG indonésiennes collaborent pour distribuer des milliers de colis alimentaires de base et d'iftar aux victimes du tremblement de terre. Le tremblement de terre en Turquie le 6 février 2023 a laissé de profondes blessures aux victimes. Athènes ne fait pas exception. L'une des 11 provinces touchées par le tremblement de terre en Turquie et est l'une des régions les plus touchées par la catastrophe. Avec un certain nombre d'organisations non gouvernementales, ONG d'Indonésie, l'ambassade d'Indonésie Ankara a organisé un festival du Ramadan à Hatay, en Turquie, sur le thème « Indonesia Kare Desla Iftar », distribuant des milliers d'aides humanitaires et de menus iftar aux victimes du tremblement de terre dans la région vendredi le 7 avril. L'aide humanitaire consiste en l'épicerie et les besoins scolaires des enfants. Outre la distribution des produits de première nécessité, une séance de guérison des traumatismes a également été organisée pour divertir les enfants. L'ambassadeur d'Indonésie en Turquie, Lalu Muhammad Iqbal, a déclaré que cette activité est une forme de sincérité du peuple indonésien envers le peuple turc. Avec cette activité, le gouvernement indonésien veut transmettre le message et l'engagement de l'Indonésie à continuer d'être présent pour la Turquie en ces temps difficiles. Lors de ce festival du Ramadan, les victimes du tremblement de terre en tant que réfugiés ont été diverties avec des chansons aux nuances islamiques, la danse saman et la récitation des versets sacrés du Coran. L'événement a réuni le sous-gouverneur de Hatay, Burga Karadak, le responsable de l'agence turque de gestion des catastrophes, AFAD, à Hatay, Kursa Biter, et un certain nombre d'autres responsables. Lors de l'événement, l'ambassadeur Lalu Muhammad Iqbal a également décerné des prix à un certain nombre de parties prenantes connexes à Hatay qui ont aidé la mission humanitaire de l'Indonésie jusqu'à présent, y compris l'association des guides touristiques turcs qui a aidé à traduire l'équipe humanitaire indonésienne. Un millier de menus iftar composés de takjil, de soupe au poulet et de riz frit au mouton ont été distribués aux habitants de Narlika qui les ont accueillis avec joie. Narlika est l'un des districts de la province de Hatay qui a été détruit par le tremblement de terre. Les résidents vivent actuellement dans des camps de réfugiés. Il y a environ 1600 habitants dans la région. C'est Zerita, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the
world. Chers auditeurs, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 13 avril 1975, la guerre civile au Liban commence. Le 13 avril 1975, la guerre civile au Liban a commencé. Cette guerre a duré jusqu'en 1990 et a fait 130 000 à 250 000 morts. Il n'y a pas de consensus parmi les experts et les chercheurs sur les causes de la guerre civile libanaise. L'implication de la Syrie, d'Israël, des États-Unis et de l'Organisation de la libération de la Palestine a exacerbé le conflit. Après la brève fin des combats en 1976, en raison de la médiation de la Ligue arabe et de l'intervention syrienne, le différend palestino-libanais s'est poursuivi avec des combats concentrés dans le sud du Liban. La guerre civile au Liban a pris fin en 1999 avec la signature de l'accord de Taïf par les parties belligérantes. Passons maintenant à l'événement du 13 avril 2013, la Journée internationale de sensibilisation aux troubles neurologiques fonctionnels, FND, a été célébrée pour la première fois. La Journée internationale de sensibilisation aux FND, aux troubles neurologiques fonctionnels, est célébrée pour sensibiliser, apporter un soutien aux personnes atteintes, ainsi que pour la recherche sur la prévention et le traitement du FND. Le FND est un trouble qui altère la communication entre le cerveau et le corps. Jusqu'à présent, la cause est encore inconnue. La Journée internationale de sensibilisation au FND, ainsi qu'une initiative visant à financer la recherche pour trouver un remède aux personnes souffrant de FND. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 13 avril 2013, un avion Lion Air s'écrase dans la mer de Bali. L'avion Lion Air GT904 s'est écrasé dans les eaux près de l'aéroport Ngurah Rai, Denpasar, Bali, avant d'atterrir le 13 avril 2013. L'avion Boeing 737-800NG aurait approché la piste de l'aéroport, mais il a dérapé et est tombé dans les eaux et a provoqué la rupture de fuselage. Les autorités aéroportuaires ont confirmé que les 101 passagers et 7 membres d'équipage avaient survécu, même si certains avaient été blessés. Les résultats de l'enquête du Comité national de la sécurité des transports, NTSC, montrent que l'incident était lié à un épais brouillard sur la piste 9 au moment de l'accident. C'est le temps, c'est à l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Saja ini terbaik untuknya. Yakin kau harus bisa seperti aku yang sudah. Cintaku, setelah waktu berjalan, kau kembali datang, tanyakan keadaanku.
Chajolitar, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
C'est Zemil Wangten. Pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie et pour le titre, le ministère de l'Environnement et des Forêts a compilé des directives de travail opérationnelles pour le Follow Net 5 2030. Le ministère de l'Environnement et des Forêts prépare actuellement un cadre de directives de travail avec des étapes de travail systématiques basées sur la théorie et l'empirie pour soutenir le fonctionnement du Follow Net 5 2030. Follow ou foresterie et autres utilisations des terres Net 5 2030 est une condition à atteindre grâce à des mesures d'atténuation visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur forestier et des terres assorties de conditions. Cette politique est née comme une forme de sérieux de l'Indonésie dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le contrôle du changement climatique et de ses impacts. La ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbayani Bakar, dans une déclaration à Jakarta mercredi 12 avril, a déclaré que chaque étape de travail est structurée de manière à pouvoir être scientifiquement prise en compte et que les procédures pratiques sont appelées le manuel de série Follow. Le manuel de travail contient des instructions pratiques et systématiques concernant les méthodes, les étapes ou les procédures sur la façon dont chaque plan opérationnel met en œuvre des mesures d'atténuation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur forestier et d'autres utilisations des terres. À travers ce document, toutes les parties sont responsables de sa mise en œuvre, à commencer par le gouvernement central, les gouvernements régionaux, les acteurs commerciaux et la communauté au sens large. Le projet de directive opérationnelle de travail sera préparé avec des tests pour s'assurer que les procédures sont préparées dans un langage clair, peuvent être suivies facilement et que ces étapes peuvent être complétées correctement par les utilisateurs. Siti Nurbaya espère que les rédacteurs des directives de travail opérationnel pourront recueillir des contributions et des suggestions pertinentes d'experts, d'universitaires et de praticiens. Selon elle, le document peut ensuite être utilisé comme matériel scientifique pour des directives de travail et des références scientifiques pouvant être utilisées par le public, en particulier les praticiens et les universitaires, et peut également être utilisé comme matériel pour le développement de la science à l'avenir. C'est Zulitar, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Berkedip mata berbinar.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez de tard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Ces auditeurs, chaque région d'Indonésie a sa propre variété de menu iftar. Les habitants de Lombok, dans l'ouest de Nusa Tenggara, recherchent généralement des gâteaux sakimuke pour rompre leur jeûne. Les habitants de Lombok aiment ce gâteau comme menu pour rompre le jeûne, car il a un goût sucré et salé. Pendant le ramadan, il n'est pas difficile de trouver sakimuke. De nombreux vendeurs vendent la nourriture dans tous les coins de la ville de Lombok, en particulier au centre culinaire du marché ACC dans la vieille ville d'Ampenan. Le gâteau sakimuke se compose de deux garnitures, la garniture inférieure est du riz gluant et celle du haut est de la cassonade. Ce gâteau est fait de riz gluant blanc de bonne qualité. Auparavant, le riz gluant était trempé, puis cuit et légèrement salé. S'il est suffisamment cuit, le riz gluant est mélangé avec du lait de coco. Peu à peu et plus tard, il sera compacté dans un plat allant au four, qui a été graissé avec de l'huile pour que le riz gluant ne colle pas. Ensuite, il est cuit à la vapeur pendant 20 minutes. Ensuite, préparez la pâte de garniture, je veux dire la pâte de garniture sucrée à partir de cassonade. La cassonade, un peu de lait de coco, de la farine, des œufs battus et bouillis jusqu'à ce qu'elle soit cuite et épaissie. Puis, ajoutez de la vanille et un peu de sel. Après être filtré, le liquide est versé dans le mélange de riz gluant dans la casserole qui est en cours de cuisson à la vapeur. Ces auditeurs, le gâteau sakimuke au goût sucré et à la texture mouleuse convient à la rupture du jeûne. Ce gâteau est délicieux s'il est dégusté avec une tasse de thé chaud. Outre son goût délicieux, sakimuke est assez bon marché à partir de 5 000 rupiah par portion contenant 5 morceaux de sakimuke. Les bandes généralement s'allument en de taille de casserole. La grande taille coûte 225 000 roupias et le petit coûte 150 000 roupias. Et les acheteurs choisissent généralement celui qui a été coupé. Chers auditeurs et chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre attention. À demain!
Pernah begini, jantungku berdetak sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elok parasmu, membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, nous présentons maintenant la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée Jacklot Ramadan 2023. Jacklot Ramadan setane setiang anuvo le ministre du turisme et de l'économie créatif monsieur Sandiaga Salahuddin Uno a révélé que Jacklot Ramadan 2023 est un élan pour l'essor de l'économie créative, notamment les sous-secteurs de la mode et de la cuisine après la pandémie de COVID-19. Le ministre Sandiaga a déclaré que l'industrie de la mode représentait 18% du produit intérieur brut de l'Indonésie. Cependant, du côté des exportations, la mode représente 66% de la valeur des exportations des produits de l'économie créative de l'Indonésie. Alors que la mode ouvre des opportunités commerciales extraordinaires et pleines d'opportunités d'emploi, le ministre espère que de nombreux jeunes entreront dans l'industrie de la mode avant qu'ils puissent créer 4,4 millions de nouveaux emplois en 2024. Jacklot est un événement annuel qui présente une variété de produits de mode locaux de différentes régions. Cette année, cette activité se déroule pendant un mois dans 13 grandes villes d'Indonésie. Diverses grandes villes sont prêtes à accueillir des centaines de marques de vêtements locales, entre autres Erigo, This Time Brand, Heiho, Urban Beauty et Warplan. Ces marques bien connues offriront des réductions pendant le programme. Il sera divisé en trois étapes. Le premier aura lieu du 26 mars jusqu'au 2 avril à Cikarang, Java West, à City Walk pour être précis. Et ensuite, Cikupa Banten à Mardi Gras à Padang. Il est situé sur le stade sportif Agus Salim et au BSCC Dome à Kalimantan. Pendant ce temps, la deuxième étape de la tournée de Jacklot aura lieu du 5 au 11 avril au JCC Jakarta et ensuite à Banjarbaru Surabaya et Shang Saburai Lampung. La troisième étape aura lieu du 13 jusqu'au 19 avril. Cette activité à JCC, il devrait se tenir du 5 jusqu'au 11 avril, mais sera prolongé jusqu'au 16 avril 2023. Ce qui est spécial dans l'événement du Ramadan de cette année à Jakarta, c'est la collaboration avec Dream et Muslim Market Indonesia pour répondre à tous les besoins de chaque visiteur, afin que les hommes et les femmes, des enfants aux personnes âgées, puissent faire leur achat. Cette année, environ 350 marques de mode locale ont participé à l'événement Jacklot. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Some of that sweet talk. You give me some of that sweet. nonsense breaking, and it's fitting or fishing. No one I wanna hear from you. When the clouds fill the sky up, no one I can rely on.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023, est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the world. Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi, Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Glenn Fredly. Cher ami Glenn Fredly est connu comme chanteur, auteur, compositeur, producteur et acteur en Indonésie. Il a commencé sa carrière en tant que chanteur pour le groupe Fun Section. Mais en 1998, Glenn décide de se lancer en tant que chanteur solo et sort un album intitulé Glenn. Il y a 8 chansons sur l'album, avec la chanson Cukup Sudah comme single principal. La chanson Cukup Sudah raconte la relation entre un homme et une femme. L'homme veut être l'amant de la femme, cependant la femme ne le considère que comme un ami. Bon, chers auditeurs, voici Glenn Fredly. Il va chanter une chanson intitulée Cukup Sudah.
Oh, come on, to the beat, yo. Cukup sudah. Yeah. Oh. Aku sayang kamu. Yeah. Aku sayang kamu. Oh, 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 oh. Kau memang cantik dan juga lucu. Kau membuatku tidur tak tentu. 2 tahunku menutup tubuhku. Tiada yang lain, hanyalah dirimu. Aku sayang kamu. Yeah. Oh, oh.
ku hitung hari-hari. Kau yang tak tahu dan yang tak pernah mau tahu. Terlalu lama ku jadi sahabatmu. Kapankah aku jadi kekasihmu? Aku sayang kamu. Aku sayang kamu.
Yo, check it, yeah. Dengar suaraku, lihatlah diriku, dengar ucapanku dan senyumlah padaku. Cukup, sudah cukup, batas-batas waktu, pergilah dariku. Lama terlalu-lalu lama, seolah bagaikan buang waktu saja. Gong-gong berbunyi dan waktu terus berganti. Janganlah, kau dah senyum kembali.
Three check, four. With this girl, what you looking for? If you're looking for love, no more. Step no back, more. Turn around, and close the door. Do that. Do exactly the things that I told you, Fred. Do that.
Yeah.
Do that.
Bonjour Jetard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.